Vous écoutez RTL.
8h48, l'heure de retrouver l'invité de RTL Matin.
L'invité de RTL ce dimanche matin, c'est l'historien Fabrice d'Almeida. Bonjour.
Bonjour Bernard Poirette.
Toute cette semaine, à 8h30 et dès demain, vous allez nous expliquer pourquoi et comment a éclaté la révolution russe d'octobre 1917, l'un des événements majeurs de l'histoire du siècle dernier. Première question, octobre. C'est la deuxième révolution de 17 en Russie.
À la révolution, c'est un gros processus. Mais effectivement, il y a une première vraie révolution, exactement, février. Chez nous, c'est début mars, hein, puisque vous savez qu'il y a ce décalage de calendrier, voilà, d'une dizaine de jours. Et donc, pour nous, la date, ce serait plutôt mars. Mais effectivement, c'est ce moment où il y a le grand mouvement populaire qui conduit à l'abdication du tsar. C'est-à-dire que, pour moi, la vraie révolution, c'est l'effondrement de l'Ancien Régime. Et l'effondrement de l'Ancien Régime, c'est le moment où le tsar renonce à régner, renonce pour lui, pour son fils, le tsarevitch.
Oui.
Et le lendemain, c'est son frère qui décide à son tour d'arrêter. Et donc là, en quelques jours, en cinq jours, hein, c'est extrêmement rapide, en cinq jours, trois siècles d'histoire s'effondrent.
Mais qu'est-ce qui fait tomber le régime ? C'est la faiblesse des Romanov ou c'est la puissance de leurs opposants ?
Ah, c'est une belle question, ça. Il y a quand même, je crois, la faiblesse des Romanov dans le sens où ils se sont compromis. La guerre a complètement ravagé l'opinion. Et donc, à partir de ce moment-là, on se dit au départ qu'on va changer juste le sommet. Il y a quelques personnes qui ont cet espoir. Hein.
Oui.
On va juste changer l'empereur. Au départ, c'est pour ça qu'il y a cette idée d'abdication.
Oui.
C'est qu'on va donner à son frère. Puis son frère refuse. Et là, on est un peu coincé. Donc, il faut chercher quelqu'un. Donc, on va trouver un parlementaire un peu sympathique qui s'appelle le prince Wolf, qui doit prendre la place. Et on se dit, voilà, on va faire une espèce de régime un peu qui gardera ses élites. Et d'ailleurs, au départ, ils veulent maintenir tous leurs engagements. Ils veulent continuer la guerre.
Mais ça marche pas.
Ils veulent avoir le même système économique qui continue. Puis petit à petit, tout ça se délite.
Alors, les bolcheviks sont en embuscade. Ils sont minoritaires parmi l'opposition. Est-ce qu'ils parviennent ? Par quel miracle Lénine et les bolcheviks parviennent-ils à prendre le pouvoir ?
Alors, il y a une combinaison de facteurs, mais c'est vrai que quand on regarde cette histoire.
C'est un peu compliqué.
C'est hallucinant. Ils sont rien. Il faut penser à ça. C'est un petit groupe, une vingtaine de milliers de personnes. C'est pas grand-chose, quoi. Et puis, Lénine revient en avril. Il était même pas là. Il faut y penser.
Non, il était exilé en Suisse.
Il faut y penser que les Allemands l'ont renvoyé en Russie. On renvoyait la peste pratiquement en Russie. Pourquoi ? Parce qu'on savait qu'avec lui, le virus de quelque chose comme le collectivisme allait arriver et que tout allait être gangréné. Et donc, il arrive. Et c'est incroyable. Ce type a une vision politique, mais stratégique, extrêmement forte. Il veut aller très, très vite au pouvoir. Il discrédite absolument le gouvernement provisoire avec un programme que moi, j'appelle, c'est le moment, hein, vraiment populiste. C'est-à-dire qu'il se dit, que veulent les gens ? Les gens, ils en ont marre de la guerre. Donc,
ouais,
il faut la paix. Contre tous les partis, il veut que le parti bolchevique soit pacifiste. On veut la paix. La deuxième chose, les paysans, ils ont déjà commencé à occuper les domaines. Ok, ils ont raison qu'ils gardent les domaines. On va faire de la collectivisation dans les campagnes. Et puis, dans les villes, là, tous ces ouvriers au chômage, etc. Il faut qu'ils aient leur voix. Il faut virer les patrons des usines. Bon, en gros, il a le programme que le peuple veut. Et c'est sa force, c'est ce qui fait que progressivement, ça mord dans l'opinion publique. Il a des agitateurs, il a des gens qui vont dans les usines, qui vont dans les rues, qui mobilisent des gens.
Et ça commence.
Voilà. Et puis après, il y a toute la tactique politique. Et là, franchement, c'était un dieu, ce type. C'était un dieu. Tactiquement, il est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'il réussit à faire que le gouvernement provisoire qu'il avait invalidé va finir par distribuer des armes à ses hommes pour lutter contre l'extrême droite.
Incroyable.
Résultat, à la fin de l'été, qui a des fusils, qui est-ce qui est capable de maintenir l'ordre ?
Les
bolcheviks, et tout d'un coup, ils deviennent autre chose.
Est-ce que c'est une révolution sanglante, avec énormément de victimes ?
Alors oui, quand on compare à ce qui s'est passé ensuite, évidemment, c'est pas une révolution sanglante. C'est-à-dire, quand on compare à la guerre civile, au crime du stalinisme, mais, il faut quand même dire, dès les premières manifestations de février 1917, c'est-à-dire au tout début, il y a déjà 150 morts, 11 et 12 mars. Ensuite, on continue, il y a quelques milliers de morts pendant la répression de l'été avec les bolcheviks et puis ensuite avec l'extrême droite. Ensuite, on continue, il y en a quelques-uns encore au moment de la révolution d'octobre.
À l'aune de l'histoire.
Vous allez me dire que c'est des miettes à l'échelle de l'histoire, mais tout s'accélère. Et quand on rentre dans l'année 18, au moment où commence vraiment la guerre civile, après l'élection de l'Assemblée constituante qui est fermée par Lénine, là commence vraiment les tombereaux de mort. Mais il faut dire, c'est des tombereaux de mort que Lénine appelle de ses voeux. Pourquoi ?
Parce qu'il
dit lui-même...
C'est lui qui souffle sur les braises de la guerre civile.
Mais il dit, lui, il faut absolument, pour fonder une nation, qu'il y ait du sang. Si on n'a pas ce sacrifice du sang, il n'y aura pas ce grand peuple soviétique que je veux. Donc, dès le départ, Lénine, il est persuadé qu'il faut des morts pour arriver à forger sa révolution. Et ça, c'était une découverte qu'on a faite seulement dans les années 90, quand on a eu l'ouverture des archives qui nous a permis de confirmer
Absolument.
Ça. Et voilà. Alors qu'auparavant, on se disait, les crimes, c'est Staline, c'est les autres. Et puis, Lénine était une espèce de saint pacifiste.
Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est d'ailleurs l'objet de l'invité que j'avais vendredi dernier, qui a fait une somme sur Lénine.
C'est Dominique Collat.
Non. c'est celui qui a fait le livre noir du communisme.
Stéphane Courtois.
Stéphane Courtois qui disait Lénine, c'est le papa spirituel de Staline. Il ne faut pas croire, c'était une bête sanglante aussi. Est-ce que sans la création de l'URSS, Fabrice d'Almeida, la face du XXe siècle et du monde en général aurait été changée?
Moi, je crois absolument. Je crois que sans... C'est François Furet qui disait que c'était extraordinaire parce que c'était une illusion qui arrivait au pouvoir. Une illusion. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on se dit qu'on peut avoir une idéologie, arriver au pouvoir et la mettre à l'œuvre et gouverner complètement un pays immense. Et ensuite, avoir une géopolitique impériale, parce qu'il faut penser à
Bien sûr, ils ont voulu gagner le monde.
Les Soviétiques pensent le monde, ils l'ont pensé, et ils ont pensé un vaste empire dont nous avons aujourd'hui un dernier représentant, qui est la Chine.
Absolument.
Il faut quand même se souvenir que quand Mao gagne en 1949, c'est pas que tout seul, il y a le soutien des Soviétiques derrière.
Mais surtout, s'il n'y a pas l'URSS, Hitler ne les attaque pas et gagne peut-être la guerre.
Alors, est-ce que sans l'URSS, Hitler sera arrivé au pouvoir? Là, il y a encore un débat. Mais c'est vrai qu'on peut penser que même le nazisme n'aurait pas eu la même figure, puisque
Absolument.
S'ils arrivent au pouvoir, c'est justement à cause de la peur du communisme. Et c'est pareil pour Mussolini en Italie, c'est la peur du communisme.
Fascinant, passionnant, l'historien Fabrice d'Almeida qui va nous raconter donc dès demain 8h30 sur RTL la révolution d'octobre 17 en Russie, 5 épisodes jusqu'au 3 novembre. Fabrice d'Almeida, merci et bon dimanche.
Merci et écoutez.
Sans faute.